Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, comme chaque vendredi. Place à l'actualité avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est Alain Salle qui nous accompagne. Bonjour Alain Salle. Vous êtes vous journaliste au Monde, bien sûr, et en charge de l'Europe. Et on va parler justement d'Europe aujourd'hui. Il y a tout juste 3 mois. En juin dernier, au lendemain de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, l'ensemble des responsables politiques des autres États membres s'accordaient pour dire qu'il était désormais urgent, vital, de se relancer au risque d'une désintégration lente et inexorable. Repenser le projet européen, redonner au peuple l'envie d'Europe, la conviction qu'ils ont plus intérêt à avancer unis que divisés, c'était tout le défi qui attendait nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement lors du dernier sommet européen qui se tenait à Bratislava, la capitale slovaque. Alors quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cet énième sommet de la dernière chance? Quelles sont les propositions qui ont été formulées et sont-elles de nature à réenchanter l'Europe? Pour évoquer toutes ces questions avec nous en plateau, déjà arrivée, Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes rédactrice en chef de Context, un journal de politique française et européenne. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous directeur du think tank Notre Europe, de l'Institut Jacques Delors, et ancien administrateur d'ailleurs de la Commission européenne. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure de la Commission européenne, Yves Bertoncini. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Aujourd'hui, c'est pas directement une journaliste qu'on reçoit, mais c'est plus largement une universitaire, bien qu'elle ait écrit dans le Monde diplomatique récemment, c'est Clémentine Fauconnier. Bonjour Clémentine Fauconnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous revenez de Russie. D'abord, vous êtes sociologue, vous êtes enseignante au Collège universitaire français de Moscou, chercheuse associée au Centre d'études franco-russes de Moscou. Voilà pour les présentations. Vous revenez tout juste de Russie, où vous avez pu assister donc à ces élections, à la campagne, mais aussi au processus de primaire qui avait été organisé au printemps. On va le voir, parce qu'en Russie aussi, il y a des primaires. Alors, juste quelques éléments de contexte pour rappeler un peu, pour rafraîchir la mémoire des auditeurs. Le week-end dernier, les citoyens russes étaient appelés aux urnes pour renouveler la Douma, la Chambre basse. Ces élections législatives ont vu la victoire, suspense, de Russie unie. Alors, ils jouissaient, c'est vrai, déjà d'une majorité relative avec un peu plus de 54% des voix et plus de 340 sièges. Ils confirment cette domination, cette suprématie dans le paysage politique. Et ainsi, d'ailleurs, bon, peut-être qu'on en parlera, mais ouvre quand même aussi un boulevard à Poutine qui pourrait tranquillement se représenter en 2018. Il faut quand même rappeler qu'il avait été élu donc en 2000, puis réélu en 2008. Il avait passé la main en 2004, pardon. Ensuite, il passe la main, puis donc élu à nouveau en 2012, et puis possiblement en 2018. Ce qui fait, quand on compte quand même à l'arrivée, quasiment 24 ans, possiblement.
Pratiquement.
Un quart de siècle, possiblement, à la tête de la Russie. Cette semaine, Clémentine Fauconnier, il y a eu des images d'une femme filmée par vidéosurveillance, bourrant une urne de bulletins. Tout ça a fait le tour du monde. La Commission électorale centrale a annoncé l'ouverture d'une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes, laissant entrevoir divers cas de fraude. Vous avez eu l'occasion, vous, d'assister déjà à d'autres campagnes législatives. Et je pense en particulier à celle de 2011. On se souvient de ces manifestations anti-Poutine, notamment celle qui avait été organisée après le scrutin pour dénoncer les votes et ces fameuses plus de 100 000 personnes qui s'étaient rassemblées à Moscou. C'était juste avant Noël, le 24 décembre 2011. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir quelque chose de cette nature-là, un mouvement de protestation comme on l'a vu en 2011?
Alors là, maintenant, ça paraît assez difficile. En 2011, j'étais aussi en Russie au moment des élections législatives et la mobilisation avait commencé très fortement le soir même, dès le dimanche soir. Oui. Moi, j'étais pas particulièrement sortie regarder ce qui allait se passer parce qu'en général, les soirs d'élections sont assez calmes en Russie. Et là, on avait été très surpris de voir des centaines, voire des milliers de gens qui étaient déjà dehors en train de manifester contre la fraude lors des élections.
Là c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Voilà. Et avant les élections aussi, l'ambiance était extrêmement calme. Alors qu'en 2011, déjà, on sentait vraiment une antipathie grandissante à l'égard de Russie unie, déjà un mouvement de lassitude, notamment à l'égard du retour de Vladimir Poutine et de la façon dont il revenait en annonçant que tout avait été déjà prévu et discuté dès le départ avec Dmitri Medvedev. Cette fois-ci, l'ambiance était complètement différente. Les élections sont presque passées inaperçues, en fait.
Donc, aucune chance de voir des personnalités émerger pour s'opposer. Pas de nouvelles Alexis Navalny en perspective. La presse a relayé un petit peu ces affaires ou pas du tout?
Les affaires contre Alexei Navalny?
Les fraudes?
Les fraudes, un petit peu. Alors, la fraude, ouais. C'est un élément de communication qui est à double tranchant, c'est-à-dire c'est à la fois le sujet qui mobilise les électeurs mécontents, mais c'est aussi un élément de communication de la part du pouvoir, voilà, en disant nous faisons des élections propres, nous luttons contre la fraude, la preuve, nous montrons sur la première chaîne qui est la chaîne vraiment qui est rattachée au Kremlin, nous dénonçons les quelques faits de fraude qui nous sont parvenus, etc. Donc, mais voilà, c'est-à-dire c'est aussi un élément de communication, il faut le savoir.
En tout cas, une forme de démobilisation, de résignation, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans le taux de participation, 47,8% cette année contre 60% en 2011. Si on regarde un petit peu les résultats, lors des précédentes élections législatives, donc 2011, Russie Unie avait rassemblé 49% des voix, remportant 238 sièges, contre cette année 53% des voix et 343 sièges. Donc quand on regarde le nombre des voix, on a 32 millions, un peu plus de 32 millions la fois précédente, aujourd'hui 22 millions. Par quel miracle Russie Unie parvient à rassembler moins de voix et à gagner 80 sièges supplémentaires?
Alors ce miracle, ça s'appelle le changement de mode de scrutin, voilà, qui a été annoncé par Dmitri Medvedev en 2011, toute fin 2011, dès qu'on a pu tous apercevoir que le mouvement de protestation était très fortement ancré et que Russie Unie ne risque pas de voir sa popularité augmenter dans les années qui allaient venir. 2007 et 2011, le scrutin était proportionnel, intégralement proportionnel, donc le scrutin de liste. Les gens votaient pour un parti plus que pour des candidats concrets. Et donc cette fois-ci, on a rétabli ce qui existait dans les années 90, c'est-à-dire le scrutin mixte. La moitié des députés, désormais, sont élus au scrutin majoritaire, dans des circonscriptions territoriales, ce qui, en fait, rend les enjeux électoraux beaucoup plus locaux et beaucoup plus personnalisés. Et ce qu'on pouvait voir, ce que j'ai vu, moi, à Moscou, c'est des candidats de Russie Unie, pour les circonscriptions territoriales, qui faisaient campagne, mais où le sigle de Russie Unie était pratiquement invisible. Voilà. Et donc, du coup, grâce à le retour de ce scrutin majoritaire, Russie Unie a pu gagner 203 mandats supplémentaires, sachant que, voilà, c'est le grand paradoxe de ces élections, le soutien en termes de voix absolue pour Russie Unie ne fait que descendre,
que baisser.
Il est encore plus bas par rapport à 2011.
Alors, vous avez consacré, je le disais tout à l'heure, un article dans Le Monde diplomatique aux primaires, oui, organisées par Russie Unie. Ici, évidemment, on a eu beaucoup de débats sur la manière dont il convenait d'améliorer notre démocratie, et la question des primaires s'est d'ailleurs un petit peu imposée à droite comme à gauche, c'est un des éléments qui a permis peut-être d'améliorer notre démocratie. C'est quand même assez étonnant de voir, de la part d'un pays dont on dénonce très régulièrement la dérive autocratique, que le parti organise des primaires.
Alors, ces primaires, il faut dire quelque chose de très important, elles sont sous contrôle, dans la mesure où il est écrit noir sur blanc dans les statuts du parti, qu'elles ne sont pas directement une technique de sélection des candidats aux fonctions électives. C'est-à-dire que c'est une première étape, à l'issue desquelles donc on a des vainqueurs, et ensuite, ce sont les autorités du parti qui décident qui se retrouvera finalement sur la liste électorale, et donc les autorités se laissent la possibilité soit d'inverser l'ordre des vainqueurs, c'est-à-dire quelqu'un qui sera arrivé en deuxième ou troisième position pourra finalement se retrouver en première position sur la liste, ou encore qui peut ajouter d'autres candidats qui n'auraient pas participé aux primaires.
Donc ce n'est pas directement un processus de désignation.
Voilà. Donc
un peu, mais pas
quand
complètement.
Même, voilà. En fait, finalement, on a quelques... C'est assez marginal le nombre, de candidats qui sont rajoutés après coup, qui n'ont pas participé aux primaires, mais il y a quand même cette sécurité-là qui donc réduit considérablement les enjeux de ce vote.
Il y a quelque chose qui est étonnant pour le coup, parce que je disais que tout à l'heure, la participation était en baisse pour les élections. Quand on regarde la participation pour ces primaires, elle est relativement importante. Vous dites quasiment 10% des inscrits, c'est-à-dire plus de 10 millions de Russes.
Oui.
Comment comprendre ce succès relatif, sachant qu'on vient de dire précisément qu'il y avait une forme de démobilisation sur les législatives?
Alors je pense que ce sont vraiment les militants et les citoyens qui soutiennent Russie Unie qui se sont déplacés pour les primaires ce printemps. Ces primaires, c'était, je pense, avant tout une répétition générale, voilà, de la mobilisation, à nouveau, voilà, des militants qui sont les plus proches de Russie Unie et qui donc sont quand même un nombre conséquent, parce que Russie Unie a quand même, voilà, des élus partout, à tous les niveaux, massivement. Et donc du coup, ça a été une répétition générale, ce qui a donc réussi à mobiliser à peu près 10 millions de personnes, ce qui était énorme. Les primaires précédentes, puisque les primaires, il faut savoir qu'elles existent depuis 2007 pour Russie Unie, avaient réuni à peu près 10 fois moins de gens quand même.
Pourquoi est-ce qu'on a organisé des primaires? Et il y a une chose qu'il faut préciser, que vous expliquez dans votre papier, c'est qu'en réalité, souvent on peut penser que ceux qui sont favorables à la primaire, c'est ceux qui sont derrière, qui attendent, c'est la nouvelle génération. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas eux qui ont mis la pression. C'est un choix qui a été décidé au plus haut sommet de l'État, en réalité.
Ça a été décidé tout à fait par le haut. Ça rencontre aussi quand même l'enthousiasme de jeunes gens, notamment des jeunes qui font partie de l'organisation de jeunesse de Russie Unie et à qui on fait miroiter beaucoup, qui souvent sont assez déçus parce qu'ils s'investissent énormément sans forcément finalement après pouvoir bénéficier, comment dire, des résultats, parce qu'ils ne se retrouvent pas forcément sur les listes électorales. Il y a plusieurs arguments en faveur des primaires. D'abord, comme j'ai dit, c'est une petite répétition générale. Ça permet d'occuper l'espace médiatique et l'espace public bien avant le début officiel de la campagne électorale. Ça permet aussi, c'est très important pour Russie Unie, on en parle assez peu souvent en France, pour Russie Unie, c'est très important de se montrer comme un parti moderne, c'est-à-dire de faire la différence symboliquement avec le Parti communiste de l'Union soviétique, et au contraire de se réclamer des partis modernes, c'est-à-dire occidentaux. Or, comme les primaires se diffusent partout en ce moment dans les pays européens, etc., Russie Unie suit le mouvement et organise aussi des primaires. Ça permet aussi, pardon, oui, de mettre en scène et de créer une concurrence à l'intérieur du parti et de dire, voilà, médiatiquement, symboliquement, voilà, Russie Unie n'est pas uniquement une masse comme ça de députés qui voient leur siège pratiquement garanti en raison de la situation de Russie Unie. Il y a aussi une concurrence à l'intérieur du parti.
Il y a un vrai renouvellement. Ça, j'étais frappé. Vous dites en 2011, un tout petit peu plus de la moitié des parlementaires avaient été reconduits. Quand on regarde chez nous, on est à peu près aux alentours des deux tiers. Donc, en réalité, on reconduit beaucoup plus qu'en Russie. Et alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait, il y a une très forte pression qui a été mise sur le dos des sortants lors de ces primaires. Vous expliquez qu'il y a des débats qui ont été organisés sur des thèmes sélectionnés, choisis, et qu'en réalité, la compétition entre les candidats a été très âpre.
Alors, il y a une vraie compétition entre les candidats. Je dirais plutôt qu'il y a une pression entre les candidats. Parce qu'à nouveau, compétition, ça supposerait qu'il y ait des règles du jeu qui font que ce soit le meilleur qui gagne. Or, je vous dis, les primaires restent quand même tout à fait sous contrôle par le haut. Mmh. Voilà. Le renouvellement des élus de Russie Unie, c'est une tendance qui est quand même à la baisse. C'est-à-dire, dans les années 90, début des années 2000, c'était moins de la moitié à chaque fois des sortants qui restaient. Pour une autre raison, qui est que la politique russe post-soviétique est assez peu professionnalisée. C'est-à-dire que c'est moins spécialisé que ce qu'on pourrait voir en France, où vraiment on rentre dans la carrière politique et puis on se spécialise. En Russie, on a beaucoup plus une circulation horizontale entre des postes dans l'administration, des postes dans les grandes entreprises, et puis parfois des postes politiques et des mandats politiques. Mmh. Voilà, c'est pour cette raison. C'est pas tellement, je pense pas que ce soit la compétition qui permette réellement un renouvellement, disons, méritocratique des députés de Russie Unie.
Mais c'est quand même assez fascinant de voir comment justement Poutine parvient à la fois à donner à ce parti les apparences d'un parti moderne, à y renouveler quand même le personnel politique, tout en s'assurant à travers ses primaires et donc toute la discipline qu'elle impose, eh bien, s'assurer que le produit de ce changement, il est parfaitement à son service.
Tout à fait, c'est un très grand tour de force. Déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce changement des modes de scrutin qui, beaucoup plus que la fraude, est ce qui permet à Russie Unie de se maintenir alors que le soutien est très clairement en baisse. Et aussi la création de ce parti qui est marqué par une très très grande tension, c'est-à-dire à la fois de lui donner par le haut tous les attributs d'un vrai parti. On crée des primaires, on crée des clubs de discussion internes qui sont supposés représenter différentes tendances idéologiques. Et en même temps, on fait en sorte que ces logiques n'échappent jamais à ceux qui dirigent Russie Unie, qui sont bien sûr au Kremlin, et à faire en sorte que la créature n'échappe pas à ses créateurs.
Est-ce qu'il a besoin de ce parti, en réalité, Poutine ? Vous écrivez justement dans votre papier dans Le Monde diplomatique, à propos de ce lien donc entre Poutine et le parti Russie Unie, vous dites « Le lien entre M. Poutine et le parti créé pour le soutenir est aussi fort qu'asymétrique, puisque lui-même n'en a jamais été membre, ce qui ne l'a pas empêché d'en prendre la direction par ailleurs entre 2008 et 2012, entre deux mandats présidentiels. » Finalement, pourquoi est-ce qu'il en a besoin, puisqu'il ne limite en rien ce parti ?
Disons que c'est un instrument parmi d'autres.
Ni dans la composition du gouvernement, ni dans son rapport au Parlement.
Dans son rapport au Parlement, si, ça permet quand même d'avoir une majorité disciplinée qui garantit que toutes les lois qui seront proposées passeront sans problème. Mmh. Boris Yeltsin, son prédécesseur, avait fait le choix de ne pas s'appuyer sur un parti. C'est en partie ce qui expliquait tous ces problèmes avec le Parlement qui votait pas forcément ce qu'il voulait, et aussi avec les régions. Voilà, c'est aussi un instrument de mise sous contrôle des élites régionales, qui est un enjeu central pour la Fédération de Russie.
Et du point de vue idéologique, de quoi est-il fait ? Il est faible du point de vue de son influence, mais il a quand même une idéologie politique. Vous dites qu'elle s'inspire beaucoup des théoriciens américains partisans du choc des civilisations.
Oui, c'est ça, de Samuel Huntington, oui. Alors pour le choc des civilisations, et aussi parce que Samuel Huntington a théorisé, une forme de conservatisme qui serait en fait la défense des institutions politiques telles qu'elles existent, et donc il explique dans un article qui date des années 70 que si la société se développe trop vite, si elle devient trop pluraliste, ça risque de mettre en danger les institutions. Et donc, la solution pour garantir ce rapport État-société, il faut un parti dominant. Donc, évidemment, c'est du petit lait pour les dirigeants russes qui s'en sont bien aperçus et qui donc s'appuient sur ces théories pour justifier la domination d'un parti majoritaire.
Et est-ce qu'il y a plusieurs idéologies quand même qui cohabitent au sein de Russie Unie ?
Oui, alors officiellement, il y a différents clubs de discussion qui sont censés représenter différentes tendances. Une tendance libérale conservatrice. Donc plutôt pour attirer les gens du monde de l'entreprise, etc., qui sont plutôt libéraux économiquement. Une tendance sociale conservatrice, qui surtout insiste sur des valeurs, alors pour le coup très traditionnelles, famille, patrie, etc., et qui représente notamment les gens, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui ont fait voter des lois contre la propagande de l'homosexualité auprès des jeunes, etc. C'est cette tendance-là, donc sociale conservatrice. Et puis une tendance plus patriote, qui est celle qui chapeaute un petit peu, toutes les questions sur la façon dont on écrit l'histoire, dont on réécrit l'histoire un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, dont ils vont s'attaquer, j'imagine, à la commémoration du centenaire de la Révolution l'année prochaine. Voilà. Donc il y a des tendances qui existent, mais à nouveau, tout est fait pour que ces tendances ne puissent pas trop réunir trop de députés et risquer de créer des divisions à long terme.
Encore un point peut-être sur ce scrutin. Il y a des circonscriptions où Russie Unie n'a pas présenté de candidat, alors même qu'il y avait eu justement des primaires. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est que c'est une manière de libérer des places pour ce qu'on appelle les partis frères.
C'est inédit.
C'est-à-dire les faux opposants, quoi.
Alors, des faux opposants, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est des oppositions qui sont, comment dire, on appelle ça l'opposition constructive en Russie. On appelle ça aussi le pluralisme
administré.
L'opposition
constructive, pardon.
Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Mais, disons, donc, ce sont des partis qui ont, disons, qui n'ont pas de présidentiable à leur tête. Et qui, donc, ne constituent pas de risque, vraiment, pour Russie Unie et surtout pas pour Poutine. Après, ça crée des grandes tensions au sein de ces partis. C'est-à-dire que souvent, les états-majors de ces partis sont tout à fait loyaux, mais certains députés ou certains militants en région sont beaucoup plus dans l'opposition et cherchent, disons, à avoir une marge de manœuvre malgré tout, en ayant les instruments qu'on a quand on a des mandats électifs, pour malgré tout essayer à la marge d'être un petit peu en opposition au pouvoir, mais c'est difficile. Mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, quand on revoit les résultats au scrutin majoritaire, si Russie Unie n'avait pas libéré ces circonscriptions pour l'opposition, on a l'impression que Russie Unie aurait pratiquement eu 100%. Voilà. Et donc, du coup, il n'y aurait pas eu du tout de représentation pour ces quelques candidats supplémentaires.
Réaction ici, petit tour de table peut-être avec nos invités, Yves Bertoncini, Clémentine Ferrissier, Alain Salle, Du Monde. Qu'est-ce qui veut réagir ? Clémentine Ferrissier.
Non, mais c'est vraiment intéressant de voir comment... ce Vladimir Poutine réussit à rester en place et ce qui me perturbe un peu, c'est quand on voit à quel point il y a des partis populistes en Europe et ne serait-ce qu'en France, la façon dont le Front National s'intéresse de très près ce que fait Vladimir Poutine et les liens entre eux, je me dis c'est étonnant de voir à quel point ces partis ont de plus en plus de partisans, alors qu'on voit que c'est quand même ni plus ni moins qu'une dictature déguisée pour rester au pouvoir. Enfin, il me semble que c'est très bien organisé.
Une démocrature, comme on dit.
Une démocrature, oui, mais c'est intéressant de comprendre finalement comment tout ça
comment
se construit.
Oui, quoi,
de
absolument.
Façon extrêmement
c'est
fine. En
c'est
fait,
fascinant.
Hein.
C'est fascinant. Oui, c'est très, très subtil.
Alain Salle. Ouais.
Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au sein du Front National et de l'extrême droite. La démocrature de Poutine a quand même un admirateur au sein de l'Europe qui est Viktor Orban, qui joue un jeu trouble avec Vladimir Poutine.
Quoi. Yves Bertoncini.
Ça donne l'avantage d'avoir un contre-modèle à nos portes. La Russie est naturellement un grand pays avec lequel l'Union européenne doit avoir des relations aussi bonnes que possible, mais c'est un contre-modèle qui parfois suscite une forme d'admiration et de fascination que j'ai du mal à comprendre, à vrai dire. Effectivement, il faut assumer dans ce contexte le fait que l'Union européenne, ce n'est pas Russie unie. Oui, c'est l'union dans la diversité, ce sont 28 démocraties, c'est d'ailleurs bien pour ça que c'est très difficile de décider à 28, parce que nous sommes des démocraties. Un exemple, c'est vrai que Vladimir Poutine peut envoyer des soldats mourir en Crimée sans même avoir le front de dire que ce sont des soldats russes. Nous, on peut faire ça plus difficilement. C'est plutôt à l'honneur des Européens. Il y a effectivement une asymétrie dans l'usage du pouvoir, l'usage de la force.
Sauf que de fait, on a beaucoup de mal à prendre des décisions à 28, à 27 maintenant, mais on y reviendra.
Je comprends, toujours à 28, qu'on puisse...
Bientôt 27.
Parce que l'Europe est démocratique, se lasser du fait que, parce qu'elle est démocratique, elle peine à décider, je comprends moins bien la fascination pour la virilité autoritaire de Vladimir Poutine.
Clémentine Fauconnier, toute dernière question sous forme de boutade de provocation des élections en 2018. Est-ce qu'il y aura des primaires qui seront organisées pour savoir qui représentera Russie Unie ?
Ça, bien sûr, ce serait la grande question. On verra. A priori, la question, personne n'a jamais osé poser la question.
Ah.
Voilà, au sein de Russie Unie. Ce serait un tournant décisif. On verra bien.
On verra. Merci beaucoup, en tout cas, Clémentine Fauconnier, d'être passée dans nos studios. Vous rentrez maintenant du côté de la Russie. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignante au Collège universitaire français de Moscou et chercheuse associée au Centre d'études franco-russes de Moscou. Un grand merci.
Merci.
Putting work like Vladimir, yeah, I'm the hottest, yeah. I go hard like Vladimir Putin.
Et ça, c'est un rap qui fait l'éloge de Vladimir Poutine qu'on a entendu pas mal sur les réseaux sociaux. On va parler maintenant d'Europe. Après le premier sommet européen sans les Britanniques à Bratislava, l'Union européenne, l'impossible relance pour l'interrogation.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors, vendredi dernier, les dirigeants de l'Union européenne se réunissaient en Slovaquie, à Bratislava, à 27, sans les Britanniques. 3 mois sont passés depuis le choc du vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union. Et l'enjeu était colossal, relancer l'Europe.
Nous sommes dans une situation critique et nous devons montrer par des actions que nous pouvons aller mieux.
Bratislava, ça doit être pour les Européens une impulsion nouvelle. Chacun connaît la situation. Alors, soit c'est la dislocation, soit c'est la dilution, soit c'est au contraire la volonté commune de donner un projet à l'Europe. C'est ce que j'appelle la nouvelle impulsion.
La nouvelle impulsion. François Hollande, Angela Merkel, qui ont tenté de vendre lors de ce sommet cet esprit de Bratislava, celui de l'entente retrouvée entre les États membres, sans nier pour autant la situation critique dans laquelle se trouve l'Europe, menacée de dislocation, disait François Hollande. Quoi qu'il en soit, les points de désaccord restent nombreux. Il y a 2 principaux points, évidemment, la crise des réfugiés et puis la politique économique. L'Union pourra-t-elle dépasser ses divisions pour éviter cette dislocation? Voilà maintenant les questions sur lesquelles on va se pencher. Avec Yves Bertoncini, directeur du think tank Notre Europe, Clémentine Forissier, rédactrice en chef de Contexte, et puis Alain Salle, notre partenaire du Monde. Je vais faire comme on fait d'habitude avec Marcemo. Alain Salle, je vais commencer avec vous. Le bilan de ce sommet Bratislava. Alors, il y a évidemment la version François Hollande et Angela Merkel, et puis il y a celle aussi de Matteo Renzi, qui a assez bien résumé les choses. Il dit, c'est à Bratislava, nous avons eu droit à une jolie croisière sur le Danube, mais j'espérais des réponses à la crise provoquée par le Brexit, pas une simple balade en bateau. C'est évidemment une nouvelle fois une manière de nous dire que cette Europe est irréformable, cette petite formule de Matteo Renzi, Alain Salle.
Oui, c'était une jolie croisière sur le Danube, mais entre gens qui ne s'entendent pas très bien, finalement, et qui ne veulent pas que ça se voit trop, quoi. Donc, Angela Merkel avait parlé d'esprit de Bratislava, qui est un esprit de compromis, de collaboration. Matteo Renzi a rué dans les brancards en disant, au fond, si les choses continuent ainsi, au lieu de l'esprit de Bratislava, nous parlerons du fantôme de l'Europe. C'est pas la première fois qu'il agit ainsi, il le fait aussi pour des raisons politiques internes, mais c'est vrai que les réfugiés continuent à arriver en Italie.
Et parce qu'il y aura un vote pour la Constitution à la fin de l'année en Italie.
Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Et il est sous la menace du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo qui affiche une ligne très anti-européenne. Et il a aussi des problèmes avec la réforme des banques italiennes. Il est en négociation tendue avec l'Europe. Mais en fait, n'empêche que les réfugiés continuent à arriver en Italie, continuent à se noyer en Méditerranée, et on a l'impression que l'esprit de Bratislava préfère pas trop le remarquer, quoi. Alors, à ces interrogations, à ces situations qui sont quand même tragiques en Italie et en Grèce, au fond, les 27 se sont contentés de proposer des mesures qu'ils appellent concrètes, comme par exemple, et je cite, comme mesures concrètes, poursuite des efforts visant à élargir le consensus de l'UE en ce qui concerne la politique migratoire à long terme, y compris sur la manière d'appliquer les principes de responsabilité et de solidarité de l'avenir. C'est sans doute un exemple de ce que cette même déclaration de Bratislava appelle « utiliser un langage clair et honnête pour les citoyens européens ». Mais en fait, la réalité, c'est que des pays affirment haut et fort qu'ils ne veulent pas de cette solidarité, comme la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, qui était le pays hôte du sommet, et que presque plus personne n'ose s'opposer à eux, et ils paraissent en position de force, alors que des élections cruciales vont avoir lieu en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, sous la pression de l'extrême droite.
Bon, voilà, le décor est planté. Clémentine Forissier, Yves Bertoncini, je vous avais l'un et l'autre, pas sur la même émission, mais invité il y a à peu près 3 mois autour de ce vote des Britanniques. Une saison a passé depuis. Quel regard vous posez sur la réaction des Européens, Clémentine Forissier?
Je ne suis pas très étonnée. Je pense que c'était un leurre de penser qu'après le Brexit, il y aurait une réaction forte, une nouvelle vision proposée. C'était absolument pas ce que tramait avant le vote du Brexit. Nous, on a posé la question des dizaines de fois aux conseillers des uns et des autres pour savoir s'il y avait des plans qui étaient mis sur la table ou qui étaient en préparation. Il n'y avait pas grand-chose. Le seul sujet sur lequel il y avait eu une sorte de vrai travail en amont, j'ai l'impression, c'est sur les histoires de défense. Peut-être qu'on peut en reparler.
On en reparlera.
Voilà, mais sinon, il n'y avait rien sur la table, donc moi, je ne suis pas étonnée que rien ne sorte après. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on se situe. On est en pleine campagne électorale en France déjà, on est déjà en campagne en Allemagne, où Angela Merkel est dans une situation compliquée. Et très honnêtement, personne aujourd'hui n'a les moyens politiques de donner une nouvelle vision pour l'Europe. Et notamment quand on voit à quel niveau justement se situent, on en parlait tout à l'heure, les partis d'extrême droite ou les partis populistes dans plein de pays. Donc moi, je ne suis pas tellement étonnée de la réponse, même si elle peut décevoir. Je pense qu'une fois encore, l'Europe montre une sorte de décalage entre ce qu'on aimerait pouvoir vendre aux citoyens et la réalité de ce que c'est que la négociation à 28 et des particularités de chaque pays. Et on est vraiment dans cette situation-là.
Alors, la défense, vous avez dit, on va en parler. Le frein allemand, on va en parler également. La question de la crise des réfugiés, on va en parler. Mais d'abord, vision un peu générale, Yves Bertoncini. Vous aussi, je vous pose la question. Quel regard vous portez sur ce qui vient d'être fait à ce sommet, ces quelques initiatives? Est-ce que vous pensez que c'était à la hauteur de l'enjeu?
L'Europe de Bratislava, c'est une Europe de pompiers, une Europe de maçons. Et puis, pour l'Europe des architectes, on repassera.
Enfin, les pompiers, ils éteignent le feu, hein.
Alors, justement, premier point, c'est une Europe de pompiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on nous disait ? Le Brexit, c'est le début d'un effet domino, tout le monde va sortir. Ce que quand même rappelle la déclaration de Bratislava, c'est qu'aucun des pays concernés ne veulent partir. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une déclaration de principe, mais ça dit quand même clairement, nous sommes là. Alors évidemment, on reste dans la maison commune, la crise de copropriétaire n'est absolument pas terminée, elle peut même empirer, mais on ne veut pas sortir. Ne minimisons pas complètement ce fait, quand on voyait qu'avant l'été, on nous expliquait qu'il y aurait des référendums d'appartenance qui fleuriraient dans tous les pays d'Europe, en Hongrie, etc. Ne confondons pas l'euroscepticisme, même les euroscepticismes sont très nombreux, et l'europhobie. Ça, c'est le premier résultat tout de même de l'Europe de Bratislava. C'est une Europe de maçons aussi, parce que oui, effectivement, il y a quelques initiatives concrètes, il y a 3 blocs, et notamment le bloc important sur la sécurité collective, la défense, la lutte antiterroriste. Le premier bloc, c'est effectivement le contrôle aux frontières, le corps européen de garde frontières, le contrôle de l'immigration clandestine, avec la dimension solidarité qui a effectivement pratiquement disparu. Et puis le troisième, c'est le développement économique, social, les messages à la jeunesse. Bon, donc ce sont des maçons qui veulent encore apposer des briques supplémentaires, construire l'Europe pas à pas. Ce qui manque, c'est mon dernier point, c'est effectivement la vision d'ensemble, l'Europe des architectes, même l'Europe des prophètes. Jean-Claude Juncker avait été bien meilleur dans son discours sur l'état de l'Union, 2 jours avant. Il essayait de dire, c'est quoi d'être européen? Nous, européens, nous avons des intérêts, des valeurs. Nous ne sommes pas les Russes, nous ne sommes pas les Chinois, nous ne sommes pas les Américains. Mmh. Et puis, nous avons des projets collectifs. Nous pouvons répondre ensemble aux menaces, saisir ensemble les opportunités. Ce qui est confondant dans les conclusions du sommet de Bratislava, c'est que les chefs d'État et de gouvernement avouent eux-mêmes qu'il faudra revenir plus tard. Et qu'il se donne 6 mois pour accoucher de cette vision commune. Ça sera donc à Rome, à l'occasion des 60 ans du traité.
Et pendant ce temps, la crise continue, les crises continuent. Et celle que je voudrais peut-être qu'on évoque tout de suite, c'est celle des réfugiés. On sait évidemment que l'un des moteurs du Brexit, ça avait été cette crise des réfugiés. Bien sûr, ces populistes, ils montent sur le terreau des inégalités, sur les ravages de la mondialisation, et puis sur cette peur des réfugiés qui viendraient déstabiliser des sociétés déjà bien fragiles. On a quand même l'impression que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'espoir, de voir l'Union se montrer solidaire. On voit de nombreux pays qui ne veulent absolument pas en entendre parler, notamment les pays du fameux groupe de Visegrád, c'est-à-dire la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. On voit bien que là, ça bloque du côté de l'Europe centrale. Qui est-ce qui veut y aller sur ce point, Clémentine
Juste un
Forissier.
Point, je ne suis pas absolument certaine que c'est la crise des réfugiés qui était un problème au Royaume-Uni. C'est la façon dont ça a été mis en forme dans la campagne des pro-Brexit, et d'ailleurs c'était un mensonge éhonté sur lequel ils sont revenus juste après. Mais on le voit aujourd'hui, le vrai problème c'est l'immigration intra-européenne, c'est ça qui a posé un vrai souci. Les agressions qui ont eu lieu là ces dernières semaines, c'est contre des Polonais, c'est pas contre des réfugiés syriens qui fuient la guerre chez eux. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et c'est intéressant aussi d'ailleurs de se pencher là-dessus, parce qu'un des gros enjeux de la rencontre de Bratislava, c'était justement d'essayer de trouver une manière de réouvrir le débat, et c'est un enjeu qui est notamment important pour les Français, sur toute la problématique autour justement de ces migrations intra-européennes liées aux travailleurs, ce qu'on appelle en France dans le débat les travailleurs détachés. Et de ce point de vue-là, les Français disent que c'est une certaine forme de succès, parce que en fait, avoir cédé sur la solidarité des quotas, en fait, tels que ça avait été prévu par la Commission européenne. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté la politique migratoire commune, puisqu'il y a quand même une volonté de renforcer les frontières extérieures. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais c'était aussi parce qu'en échange, on veut absolument réussir à réouvrir le dialogue sur la réglementation, le renforcement du contrôle et de la fraude, en fait, au travail détaché, qui est un problème, notamment pour les Français. Donc, enfin voilà, c'est toujours un échange. Hein. C'est jamais uniquement dans un sens. Derrière, il y a ça. On peut trouver que c'est pas suffisant, etc. Mais en tout cas, ce qui a préoccupé, enfin le problème qui a été à mon avis souligné au Royaume-Uni, c'était, et c'est en grande partie d'ailleurs de la responsabilité des Britanniques qui ont ouvert leur marché du travail tout de suite alors qu'ils avaient la possibilité de le faire par étapes, donc c'est quand même assez paradoxal, mais en tout cas c'est plus l'émigration intra-européenne.
Yves Bertoncini et puis Alain Salle. Yves Bertoncini.
Les crises de copropriétaires que connaît l'Union européenne, elles ont commencé au moment du traité constitutionnel européen, ça c'était quel règlement intérieur, quelle répartition des pouvoirs. Bon. Ensuite il y a eu la crise de la zone euro, crise financière. Je crois qu'on n'a pas complètement soldé les dégâts politiques, mais une fois de plus, ça a généré des euroscepticismes. L'euroscepticisme des pays comme la Grèce qui pensent que c'était trop d'austérité, et puis l'euroscepticisme des pays comme l'Allemagne, la Finlande, la Slovaquie qui pensaient que c'était trop de solidarité. Et à nouveau, dans la crise des réfugiés, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre, c'est-à-dire des mécanismes de pays qui ne veulent pas s'en aller, mais qui ne sont pas d'accord avec la façon dont on a fait face, avec cet équilibre jargonesque entre responsabilité et solidarité, à cette crise. Je crois qu'il va falloir...
On n'a pas fait face à la crise, en réalité. Il n'y a pas de mécanisme de répartition à l'intérieur de l'Europe. On n'a pas fait face.
Qu'est-ce qui a frappé les pays d'Europe centrale et orientale, il faut le dire, c'est l'unilatéralisme allemand. Le fait que ces pays ont été traversés par des réfugiés qui voulaient aller en Allemagne, en Suède. Il faut quand même aussi dire, quand on parle de mécanismes de solidarité, que des pays comme la Hongrie ont reçu énormément plus de réfugiés sur leur sol qu'un pays comme la France. Alors que la Hongrie est 6 fois moins peuplée que la France. Et donc que ces pays, sur le fond comme sur la forme, aient été choqués, on peut, à mon avis, le comprendre. Mais quelle est l'issue pour les Européens dans ces deux dernières crises, la crise de la zone euro et la crise des réfugiés? C'est de regarder un tout petit peu plus à la source, ensemble, dans la même direction. Ce sont des crises externes. La crise de la zone euro, elle a été déclenchée par les subprimes, ce que les Européens n'avaient pas inventé. La crise des réfugiés, elle a été déclenchée parce que dans notre voisinage immédiat, il y a le chaos, la Syrie, l'Irak, la Libye, etc. Et donc, si les Européens veulent bien se donner la peine de regarder vers l'extérieur de leurs frontières, ils peuvent peut-être trouver des raisons de s'unir dans cette direction. Et un dernier mot sur la crise des réfugiés.
Pardon, mais elle n'est pas seulement à l'extérieur des frontières de l'Europe. Elle est aujourd'hui bien à l'intérieur. Regardez cette affaire hier avec ces policiers belges qui ont été arrêtés par des policiers français avec à l'intérieur 13 réfugiés. Alors, on a vu Bernard Cazeneuve qui a convoqué l'ambassadeur de Belgique. On voit bien là qu'on... Tous les États, en fait, se dirigent vers des solutions chacun de son côté et vers un retour des frontières à l'intérieur même de l'espace Schengen. La libre circulation, c'est fini. On avait déjà un espace Schengen qui était suspendu. C'est fini.
Attention, là-dessus, il faut être précis. Rétablir ponctuellement le contrôle aux frontières, ce n'est pas du tout violer Schengen, c'est appliquer Schengen. Il y a des clauses de sauvegarde, on peut tout à fait, quand il y a des événements sportifs, des menaces terroristes, des flux migratoires incontrôlés.
Jusqu'à quand ?
On peut le faire au moins encore pendant 2 ans quand c'est nécessaire. En revanche, ce qui est navrant, c'est que face à une crise, parce que vous parlez des réfugiés qui transitaient entre la France et la Belgique, ce sont pas des Belges, ce sont pas des Français. On n'est pas dans la libre circulation intra-européenne. Ils viennent de l'extérieur. Qu'on se querelle comme des Gaulois, si je puis dire, de la même façon que les Suédois et les Danois ont rétabli à un moment ponctuellement, et c'est plus le cas aujourd'hui, le contrôle à leurs frontières communes, que les Autrichiens et les Allemands se sont querellés, alors qu'il vaut mieux regarder vers l'extérieur. Il y a quand même un progrès, c'est ce corps européen de garde-frontières qui va être mis en place, les renforts qui sont envoyés en Grèce, en Italie, et puis maintenant en Bulgarie. Il vaut quand même mieux consolider le contrôle de nos frontières extérieures plutôt que rétablir ponctuellement le contrôle à nos frontières domestiques, même si
sauf
c'est possible.
Que, dernier, que c'est ce qu'on fait.
Dernier point quand même sur l'unilatéralisme allemand, parce que pour nuancer ce que j'ai dit, il y a eu un accord avec la Turquie sur les réfugiés. On peut en penser ce que l'on souhaite. Ça a été fait sous l'impulsion allemande, mais cet accord est appliqué et il a considérablement réduit le flux des réfugiés. Ça ne passe plus par ici.
Alain Salle.
Et alors, c'est vrai que c'est des causes extérieure au départ, on peut dire aussi bien dans la crise de la zone euro que dans la crise des réfugiés, mais ça a surtout mis en évidence justement les propres faiblesses internes de l'Europe, l'architecture boiteuse de l'euro et la difficulté à répondre à une crise, même si elle vient de l'intérieur, et ça a enclenché tous ces phénomènes d'opposition entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et ensuite, on a vu pour la crise des réfugiés, la question des frontières, et que la déstabilisation est arrivée aussi, pareil, des gens qui venaient d'ailleurs dans le même pays, la Grèce, et que personne ne savait gérer, quoi. Donc les gardes frontières, c'est sans doute très, très bien, mais c'est toujours pas en place, quoi, et alors que ça fait longtemps. Et peut-être un dernier point sur comment l'Europe peut agir à l'extérieur. On peut quand même n'être que frappé par, au fond, l'absence de l'Europe dans la question et dans des tentatives de règlement de la crise syrienne.
Clémentine Forestier, encore un mot, puis je voudrais qu'on passe à la question de la défense.
Sur l'absence de l'Europe à l'extérieur, on peut pas accuser les autres de notre propre turpitude. On n'a pas voulu faire l'Europe de la défense. Là-dessus, les Français ont été les premiers à dire non. Et ça, on s'en souvient il y a 50 ans. Bon, là maintenant, on est les premiers à vouloir absolument la mettre en place et la développer. Mais on est un peu seul. Et là, pour le coup, il y a plein de raisons historiques. Il y a l'OTAN, les pays de l'Est de l'Europe, qui voient vraiment pas très bien pourquoi est-ce qu'on développerait l'Europe de la défense alors que l'OTAN existe avec les Américains. Enfin, ça, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et tant qu'on n'aura pas décidé de passer outre ces obstacles-là, on n'avancera pas. Là-dessus, peut-être qu'il y a une petite brèche qui s'ouvre, parce que l'Allemagne, quand même, évolue et que... On a beau dire, mais si les Français et les Allemands sont pas d'accord pour avancer ensemble, ça avance difficilement sur ces sujets-là. Et en tout cas, Angela Merkel, après, c'est plus difficile peut-être au sein de son propre parti, mais elle-même semble prendre conscience qu'il faut un peu évoluer sur ces questions. Donc, on parle de créer un fonds défense pour les investissements. On parle peut-être de créer une sorte de quartier général européen. Les Britanniques étant partie de l'Union européenne, peut-être que ça pourra aider à mettre ça en place et à simplifier quand on doit faire des opérations extérieures. Et puis, il y a aussi cette histoire de battle group, là, donc qui permet des sortes de corps européens à pouvoir déployer dans certaines circonstances. Donc, ça, c'est pas fait. D'ailleurs, on sentait bien la précaution avec laquelle la chancelière en a parlé à Bratislava lors de la conférence de presse. Elle a dit, oui, on s'en reparlera au mois de décembre, etc. Mais quand même, il y a un mouvement qui est lié aussi au fait que l'Allemagne évolue par rapport à sa propre histoire, qu'elle a plus forcément le même rapport à cette défense qui a été un traumatisme et dont personne ne voulait entendre parler depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être que l'Allemagne se normalise aussi et qu'aujourd'hui, elle évolue par rapport à ça et qu'elle sent bien que ça peut être aussi une manière de... C'est toujours pareil, on se dit avoir un ennemi commun, ça permet de fédérer. Bon, c'est peut-être terrible de dire ça, mais ça peut être un moyen d'avancer aussi pour les Européens.
Alors, Yves Bertoncini, justement, sur ce volet, sur ces propositions en matière de défense, donc il y a eu cette proposition de création d'unité européenne, ce quartier général, avec peut-être un financement commun. On sait combien la défense est un élément absolument décisif pour l'avenir de l'Europe, qui de plus en plus va devoir se protéger seule, on parlait tout à l'heure de la Russie, face à une Russie qui est de plus en plus agressive et qui d'une certaine manière joue l'affaiblissement de l'Europe, face avec aussi des États-Unis de l'autre côté qui sont déjà bien sur la voie du désengagement et ça pourrait bien continuer comme ça. Alors, quel regard vous portez tout simplement sur ces propositions? Est-ce qu'on peut croire finalement à la relance du projet européen sur le volet de la défense, de la sécurité? Est-ce que le salut de l'Union finalement passera par ça? Et est-ce que, comme Clémentine Forestier le disait, l'Allemagne est en train de bouger sur ces questions?
Absolument. Je crois que c'est la sécurité collective au sens large, avec ce qu'on a appelé traditionnellement l'Europe de la défense, mais aussi la coopération policière et judiciaire face au terrorisme islamiste, plus le contrôle de nos frontières avec la création imminente de ce corps européen de garde-frontières. Vous avez raison de souligner que le contexte politique et géopolitique est en train de fortement changer. Quel est le drame de l'Europe de la défense? C'est qu'on l'a proclamée au moment du traité de Maastricht, sans l'assentiment de Jacques Delors, je le signale au passage, au moment où il n'y avait aucune volonté de se défendre et pas d'Europe. Alors évidemment, créer une Europe de la défense quand il n'y a pas de volonté de se défendre parce qu'il n'y a pas de menace et pas d'Europe parce qu'il n'y a que l'Alliance Atlantique, c'est difficile. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Et vous l'avez bien souligné. L'Alliance Atlantique reste évidemment tout à fait indispensable, sauf que la perspective d'une victoire, même si elle n'est pas certaine, de Donald Trump, fait se demander aux Européens, dans ce monde plein de menaces, qu'est-ce qu'on fait si les Américains ne sont plus là? Deuxièmement, les Britanniques se retire. Ça devra rester un partenaire très important, mais nous savons bien que les Britanniques étaient plus atlantistes qu'européens, et donc le fait qu'ils se retirent laisse un espace vide que l'Allemagne est déterminée à combler. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la deuxième chose.
Par ailleurs, j'ajoute une parenthèse qu'ils étaient plus en capacité que les autres États membres de se projeter sur des opérations extérieures, même s'ils ne le faisaient pas toujours, mais en tout cas, on les a vus parfois à nos côtés. Là, avec le départ de la Grande-Bretagne, ça change vraiment la donne. On est de
Absolument.
Plus en plus isolés. Je vous laisse
vous avez raison, mais c'est là que l'Allemagne est amenée à prendre ses responsabilités et qu'elle va le faire. Pourquoi ? Parce que, justement, ce qui se passe dans notre voisinage immédiat a aujourd'hui des conséquences en Allemagne. Le flux de réfugiés qui a été accueilli a été perçu comme un flux de victimes, et c'est à l'honneur de l'Allemagne. Mais ça a été quand même déstabilisant en Allemagne, y compris politiquement. Et puis surtout, l'Allemagne a été frappée cet été par des attentats terroristes islamistes qui souvent sont commis par des nationaux, sauf qu'ils sont téléguidés depuis l'étranger, la Syrie, l'Irak, comme on l'a vu d'ailleurs également en France et dans d'autres pays.
Vous pensez que ça va faire bouger Berlin ? Qu'il pourrait y avoir des concessions faites par Berlin en matière de
pas des concessions,
de
mais la nécessité d'avancer. Alors ça prendra du temps, il faut reconstruire une armée, il y a aussi la question très importante de l'appareil industriel, il faut faire d'un rapprochement industriel, sans quoi on reste patriote et cocardier en matière de contrats à l'étranger. Mais sans nul doute, les choses sont en train de bouger et il va se passer des choses déterminantes dans les prochains semestres ou les prochaines années.
Bon, il faut encore patienter, quoi. Alain Salle.
Oui, non, c'est clair qu'il y a un changement de la position allemande sur les questions de défense qui était préparée depuis un certain temps. C'est d'abord le président allemand qui avait évoqué cette possibilité-là. Ça a été repris par Angela Merkel, soutenu, il me semble, par le ministre des Affaires étrangères social-démocrate Steinmeier. Donc on voit apparaître une forme de consensus en Allemagne, justement pour prendre au sérieux une défense en lien avec l'Europe. Ils viennent d'adopter un nouveau livre blanc de la défense. C'est une évolution assez importante, quoi. Sur les battle groups...
Et vous pensez pas... Oui, allez-y.
Sur la question des forces d'intervention, je me demande quand même à voir, par exemple, l'intervention française au Mali. Je pense qu'on pourrait la refaire nous-mêmes comme ça, mais en se tournant vers l'Europe, on risque quand même encore d'attendre qu'il y ait tous les battle groups.
Yves Bertoncini, puis je vous redonne la parole. Yves Bertoncini.
Sur un plan concret, il faut le dire, il y a des Allemands au Mali, il y a des Allemands en Syrie,
mais
ils sont pas
après,
en première ligne, souvent ils aident, ils sont en logistique, en formation, mais en tout cas, ils sont là, et donc ça bouge, il n'y a pas que, d'ailleurs, il y a des Danois, des Belges, etc.
Mais ils sont
la France est leader, parfois d'ailleurs, elle part devant, parce qu'en une nuit, son président peut décider de lancer des troupes, alors que ça ne se passe pas comme ça dans les démocraties parlementaires européennes, et ensuite, elle se plaint qu'on n'ait pas pu la suivre dans la minute. On la suit, les partenaires le font. Mais ce que je veux dire quand même sur cette enjeu de l'Europe de la défense, de la sécurité collective, c'est que c'est vraiment déterminant parce qu'on est à la fois dans l'opérationnel, ça prend du temps, mais aussi dans l'émotionnel. Là, on est, je dirais, dans quelque chose qui peut parler aux peuples de l'Union européenne parce que les peuples de l'Union européenne, aujourd'hui, ils ont peur, beaucoup, et ils se demandent si l'Europe est la menace ou si l'Europe est la réponse aux menaces. L'Europe peut être une menace pour certains d'entre eux, dans certains cas, certaines de ses décisions, de ses politiques. Mais si on regarde le monde, encore une fois, Vladimir Poutine, dont vous avez parlé, Daesh, le chaos partout autour de nous et puis un peu au-delà, si l'Union européenne se mobilise, elle peut être perçue comme une réponse aux menaces. Et d'une certaine manière, c'est un retour aux sources.
Parce que comme l'a dit Clémentine... Elle peut, mais regardons les choses. Elle n'est pas perçue comme une solution. Aujourd'hui, ce qui est perçu comme une solution, ce sont les États-nations. Ce n'est pas l'Europe.
Je ne suis pas complètement convaincu. Je vous donne raison sur un point. C'est-à-dire que s'il y a des menaces et que les capitaines européens donnent le sentiment de se quereller plutôt que d'y répondre, retour aux abris. Et les bons vieux abris, ce sont les abris nationaux, les frontières, etc. Mais quand on demande aux opinions publiques si elle ne pense pas que l'Union fait la force, bien sûr qu'elle pense que l'Union fait la force. Même dans les pays du groupe de Visegrad récemment, ils ont demandé la création d'une armée européenne. Parce qu'ils savent bien que face à Vladimir Poutine, c'est pas l'armée tchèque toute seule qui va faire le poids. Et donc, ils demandent la création d'une armée européenne. On n'en est pas du tout là. Mais ce que je veux dire, et je termine, c'est que c'est un retour aux sources. Parce que la construction européenne a été lancée sur l'ère de l'hymne à la peur. Nous avions peur de nous entretuer et nous avions peur de Joseph Staline. C'est aussi parce que les Européens ont peur que la construction européenne peut les aider à répondre aux menaces qui les entourent.
Oui, Alain Salle et puis Clémentine Forissier. Alain Salle.
Oui, sur la question effectivement des groupes de Visegrad, ils ont évolué en parlant d'une Europe de la défense et puis ils ont surtout pris conscience du désengagement américain qui les force à trouver d'autres solutions pour se défendre et donc à se tourner vers l'Europe. Et l'OTAN évidemment, mais européen.
Juste pour revenir aussi sur la démarche de Bratislava, on peut voir les choses de manière négative en disant finalement, c'est vrai que quand dans la même déclaration, à peu de choses près, on parle de la 5G, de l'Europe de la défense, de la politique migratoire et de politique énergétique, enfin il y a une espèce de fourre-tout là-dedans qui perd un peu de son sens. Après... C'est une démarche différente qui a été tentée là pour des raisons assez pragmatiques, c'est-à-dire que en France il y a des élections au mois de mai, qu'on pourra pas relancer une vision de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, une grande vision telle que les Français l'aiment bien, c'est-à-dire on fait des grandes déclarations. On dit qu'on a donné une très grande impulsion politique, etc. Puis derrière, il se passe pas grand-chose. Là, ils ont décidé d'avoir une sorte d'attitude un peu inverse, c'est-à-dire bon, il y a quelques projets comme ça qu'on vous pointe du doigt de façon assez précise, et on va essayer d'y arriver dans les 6 mois. C'est un peu un changement de logique. On fonctionne pas souvent comme ça. En général, on se donne des horizons plutôt à 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. On peut voir si ça va marcher. Ça va être intéressant de tester. Moi, je suis toujours très méfiante quand on se donne aussi des dates très précises, parce que à chaque fois, on voit que les choses peuvent être repoussées. L'anniversaire du traité de Rome en Italie, en mars prochain, on verra bien si c'est la fin de tous les projets qui ont été initiés à Bratislava. J'en suis pas absolument convaincue, mais en tout cas, je pense qu'il y aura quand même des résultats un peu concrets et qui permettront de juger les Européens de façon un peu plus efficace, je dirais.
On a encore quelques minutes. Je propose peut-être d'échanger autour d'une question qui est centrale, qui est la réforme institutionnelle. Parce que finalement, au cœur de cette paralysie européenne, on a ce que vous disiez tout à l'heure, Yves Bertoncini. Vous disiez tout à l'heure que c'est très bien. Nous sommes à 27. On décide à 27, plus 28 maintenant. Sauf que c'est aussi un problème, parce que c'est aussi ce qui provoque cette paralysie. Regardez sur son blog Les coulisses de Bruxelles, le correspondant de Libération qu'on connaît bien, Jean Quatremer, se demande ce que serait une puissance américaine si elle devait fonctionner avec 50 gouverneurs qui décidaient à l'unanimité, qui accepteraient ou pas d'appliquer telle ou telle politique, d'utiliser ou non le dollar, de décider ou non d'une intervention. Et c'est comme ça, en réalité, que l'Europe fonctionne. Donc c'est une réforme institutionnelle, pardon, dont a besoin l'Europe. Comment est-ce qu'on fait, Yves Bertoncini, pour faire cette réforme, et comment est-ce qu'on fait pour convaincre les peuples que cette réforme est nécessaire ?
Moi, je pense quand même qu'on a d'abord besoin d'une vision politique avant de passer par des réformes institutionnelles. L'Union européenne, c'est l'union dans la diversité. Ce n'est pas Russie unie, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un peuple, ça le restera. Nous sommes unis dans la diversité. Donc, nous devrons nous mettre d'accord à 27 bientôt, en effet, parce que ce n'est pas non plus une prison, hein, comme l'Union soviétique, on a le droit d'en sortir. Et quand on est dedans, eh bien, on peut soit, comme certains pays d'Europe centrale et orientale, se dire qu'on va se claquemurer dans son appartement, ne plus payer les charges communes, ne plus être solidaire, et d'ailleurs, il n'y a même pas de possibilité d'être expulsé, si je puis dire. Ou alors, on peut jouer un peu plus collectif. Si jamais on regarde par la fenêtre de la maison, une fois de plus, la vision politique qui sert ensuite à lancer l'initiative qu'on peut lancer parce qu'il y a des mécanismes de décision. Mais prenons un exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on peut décider de manière énergique au niveau européen ? La Commission européenne, en matière de concurrence, elle a des pouvoirs décisionnels. Parce que sinon, elle propose et elle exécute. Mais là, elle décide. Donc, elle peut sanctionner Apple et lui dire de rembourser 13 milliards d'euros aux autorités irlandaises.
Oui, et Dublin peut dire non, c'est pas la peine de rembourser.
Il doit donc saisir la Cour de justice, et puis on verra bien si...
Oui, mais Dublin a déjà dit, c'est pas la peine de rembourser.
Oui, mais...
S'il demande pas l'argent, il y a peu de chances qu'il rembourse.
Quand on a l'exemple d'un pouvoir centralisé, je crois d'ailleurs que cette décision, elle est plutôt bien vue par les peuples de l'Union européenne, mais elle peut être prise dans ce cas précis, parce qu'il y a des pouvoirs, des prérogatives, des décisions. De la même façon, la Banque Centrale Européenne a joué un rôle très déterminant pendant la crise financière, parce qu'elle n'avait pas besoin de demander 28 votes pour prendre ses décisions. Le reste du temps, il y a cette nécessité de se mettre d'accord. Et un mécanisme, et je termine là-dessus, puisque vous êtes sur l'institutionnel, qui s'appelle le vote à la majorité qualifiée. Mais c'est justement le vote qui a été utilisé, ce mécanisme, pour la répartition solidaire. Puisque on s'est rendu compte qu'il y avait un consensus assez large et que certes, 4 pays du groupe, le Visegrad, ne voulaient pas de cette répartition solidaire. Mais on leur a dit, écoutez, je suis désolé, les institutions prévoient qu'on puisse décider sans vous. Et puis, voilà, simplement, ils ne veulent pas exécuter. Et ça, ça restera toujours la faiblesse de l'Union européenne, parce qu'on ne peut pas forcer les pays à exécuter des décisions. On pourra les condamner si on saisit la Cour de justice de l'Union européenne. Ils auront peut-être des amendes à payer. Mais in fine, s'ils ne veulent pas payer les amendes, on n'enverra pas les troupes.
Clémentine Forissier, puis Alain Salle, vraiment le mot de la fin.
Moi, je pense qu'on peut parler de réformes institutionnelles, bien sûr, mais pour ça, il faut avoir une légitimité politique pour les porter, ces réformes. Et tant que les dirigeants des États ne veulent pas asseoir l'Europe dans leur discours et dans la comme une sorte de partie prenante d'une identité nationale, je pense qu'il y aura, enfin, on pourra parler de réforme institutionnelle, mais ça ne résoudra pas le problème. C'est-à-dire que il faut, à un moment ou à un autre, savoir si oui ou non, on intègre cet échelon politique comme partie prenante de notre propre souveraineté. Alors, ça peut paraître des grands mots, mais n'empêche que c'est de ça dont on parle. Si c'est toujours un élément extérieur, qui finalement est un empêcheur de tourner en rond, honnêtement, la dislocation dont parle François Hollande, on en prend le chemin et on pourra continuer comme ça.
Alain Salle, vous qui êtes en charge de l'Europe au journal Le Monde, est-ce que vous pensez que la réforme institutionnelle, ça va régler les choses ?
Régler les choses, peut-être, mais on a du mal à voir se mettre en place une réforme institutionnelle aujourd'hui. Et Yves Bertoncini parlait de la majorité qualifiée, effectivement employée pour imposer les quotas. Résultat, ils sont appliqués nulle part, y compris par ceux qui ont voté pour.
Absolument. Il ne peut pas y avoir de fédération d'États-nations, ça c'est l'expression de Jacques Delors forte, si les États-nations ne jouent pas le jeu et si les leaders nationaux ne jouent pas le jeu. Et donc on peut accabler la Commission européenne de tous les maux, simplement s'il n'y a personne pour promouvoir l'Union et exécuter ses décisions au niveau national, elle est impotente. Elle n'est pas disloquée, mais impotente.
Avec un petit peu d'amour, un message d'amour, Love Me Tender, mais c'est pas n'importe quelle version, hein, c'est la version par le Philharmonique de Berlin, s'il vous plaît, hein, parce que quand même, c'est un petit peu eux quand même qui décident des choses, hein, quand même, hein, Yves Bertoncini. Merci beaucoup, Yves Bertoncini. Clémentine Forissier, et un grand merci à vous, Alain Salle, journaliste au Monde, notre partenaire le vendredi. Ça a été, tout s'est bien passé, Alain Salle ? Vous reviendrez ? Il est 11h, passé de presque 53 minutes. Après le calme, vient la tempête.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et la tempête, c'est vous, Brice. Bonjour, Brice.
Bonjour, Florian.
Alors, on te parle depuis le début de la semaine de l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des robots sur nos sociétés. Les robots s'apprêtent-ils à travailler à notre place, Brice ?
Eh bien, le cabinet de consultants McKinsey, dans une étude récente, estimait que la bombe de l'automatisation pourrait supprimer 45% des activités actuellement exercées aux États-Unis. Et qu'on n'imagine pas que cela ne concernera que l'industrie. Le commerce de détail, les transports, les métiers de l'assurance, de la comptabilité, l'éducation et même le journalisme, Florian, vont être touchés. Déjà, bien des informations boursières sont rédigées par des machines. Beaucoup de gens se demandent si leur métier fait partie de ceux qui risquent d'être emportés par la nouvelle vague technologique. On nous dit « la quatrième révolution industrielle va susciter, hors les métiers déjà connus de l'informatique, nombre d'autres dont nous n'avons encore aucune idée ». Mais les entreprises industrielles de jadis requéraient d'énormes masses de main-d'œuvre. Les grandes compagnies de l'ère numérique, elles, emploient très peu de personnel. Pensez que General Motors, au sommet de son activité, faisait travailler jusqu'à 800 000 personnes. Et comparé avec Facebook, avec une valeur boursière de plus de 350 milliards, le réseau social le plus populaire de la planète tourne avec moins de 15 000 salariés. En fait, les véritables employés de Facebook travaillent pour la firme de Palo Alto bénévolement, oui bénévolement, puisque c'est vous et moi qui fournissons le contenu. Du coup, beaucoup de gens prédisent que le chômage que nous connaissons aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui nous attend.
Alors certes, Brice, mais il y a aussi des analyses qui pensent que l'automatisation pourrait permettre de rapatrier des emplois qui s'étaient évaporés du fait de la mondialisation.
Oui, c'est vrai, vous avez raison Florian. Les robots, les imprimantes 3D pourraient bien permettre de relocaliser certaines productions. Le PDG de PayPal, le libertarien Peter Thiel, prédit que le deuxième âge de la machine, comme il dit, va provoquer un vaste mouvement de relocalisation. Et son raisonnement est simple. Les emplois peu qualifiés ont échappé aux travailleurs des pays riches parce que les firmes ont découpé leur production en segments, localisant chaque étape dans le pays présentant à leurs yeux les meilleurs avantages. C'est le système qu'avait exposé Thomas Friedman dans La Terre est plate. Or, les robots, eux, ne consomment que de l'électricité. Leur prix ne cesse de baisser. On peut les faire travailler aussi bien en Malaisie que dans le Massachusetts. La robotique a déjà pénétré certains secteurs tels que l'électronique ou le textile. Leurs producteurs ont moins tendance à aller délocaliser leurs ateliers vers les grands bassins de main-d'œuvre asiatique ou sud-américain. Tout porte à croire, affirme le prix Nobel d'économie Michael Spence, qu'ils vont dorénavant chercher à se rapprocher de leurs clients. Et il donne l'exemple d'Adidas, qui vient d'ouvrir une usine ultra robotisée en Allemagne. Mais précisément, ce seront des activités ne nécessitant que très peu de travail humain, et plutôt du travail très qualifié. Alors d'autres optimistes vous rappellent qu'à chaque vague d'innovation, les meilleurs esprits ont annoncé que le remplacement du travail humain par des machines allait provoquer une explosion du chômage. Dans les années 30, le grand John Maynard Keynes lui-même se disait tracassé par le risque d'un chômage technologique. Et il s'est trompé comme les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Luddite fallacy, l'idée fausse des Luddites, en référence à ces fameux ouvriers du textile qui ont brisé les métiers à tisser au début du 19e siècle en Angleterre, persuadés qu'elles allaient leur ôter le pain de la bouche. Mais dans le passé, les progrès techniques ont toujours tendu à créer de nouveaux emplois, plus intéressants et mieux rémunérés à mesure qu'ils en supprimaient d'autres. Et on nous ressort l'argument classique du basculement des emplois de l'agriculture à l'industrie, puis de l'industrie au service. Le secteur manufacturier, qui représentait encore 22% des emplois aux États-Unis en 1980, est tombé à 11% en 2011 et on prévoit qu'il n'occupera plus que 2,8% des travailleurs en 2030. Alors oui, certainement, la révolution industrielle va créer des emplois, mais autant ou moins que ceux qu'elle n'en détruira. Mon partenaire WorldCrunch a mis en ligne un article du magazine chilien America Economia qui met le doigt sur un argument décisif. Cette révolution va certes créer des emplois dans des secteurs de très haute technologie, mais ces postes vont requérir des compétences très pointues pour lesquelles très peu de gens sont aujourd'hui formés. Il y aura donc une longue période d'adaptation. Et tout porte à croire que l'érosion de la classe moyenne, telle qu'on peut la constater aux États-Unis, va concerner la plupart des économies développées, y compris en Amérique latine. Dans ce contexte, on comprend que revienne sur le tapis l'idée de revenu universel. Elle permettrait aux exclus de cette transition technologique de survivre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle témoigne d'un véritable pessimisme sur la capacité de l'économie de demain à fournir à chacun d'entre nous un emploi rémunérateur. Et comme l'écrit Rana Dasgupta dans Prospect de ce mois-ci, je la cite, « Le système n'a plus besoin de nous. Sa solution ? Imaginez des moyens pour que les armées de chômeurs participent normalement à la vie de la société. » Et elle prend l'exemple dans le passé des moines du Moyen-Âge en Europe. Les aristocrates payaient pour qu'une proportion non négligeable de la population prie pour le salut des âmes. Aujourd'hui, des communautés locales tentent de sortir des circuits de l'économie classique afin de vivre en marche. Alors, recréer des monastères laïcs ?
Bon, bah voilà, Brice Couturier. Hein. Donc, si j'ai bien compris, puisqu'on va être remplacé par des robots, c'est pas la peine de revenir lundi. Il faut qu'on se trouve un monastère. En gros, hein,
c'est ça. C'est une bonne idée.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour trouver évidemment votre chronique sur la page de France Culture, www.franceculture.fr.